Bonjour à tous. Donc on va faire cette présentation à deux voix successives. Je suis Frédéric Asbar, je suis psychiatre et responsable de l'équipe PEPS. Et donc je suis accompagné de Benjamin Garnier qui va se présenter.
Bonjour, je suis Benjamin Garnier, je suis le cadre de santé de l'unité d'intervention précoce sur le Vinatier du coup.
Alors l'idée de cette présentation d'aujourd'hui, je ne voulais pas spécifiquement faire une présentation sur ce que sont les premiers épisodes psychotiques, quels sont les enjeux cliniques, mais on pourra éventuellement en parler si certains d'entre vous le souhaitent. Mais c'était plutôt de parler du rétablissement, de l'autodétermination, d'empowerment, et d'essayer de vous montrer comment le case management pour les premiers épisodes psychotiques peut être finalement une manière de redonner du pouvoir d'agir aux patients. Voilà, donc avec quelques éléments un peu généraux, un peu théoriques, et puis ensuite... On vous présentera l'organisation de notre équipe et on essaiera de vous montrer comment on essaye de développer des plans de suivi des patients qui visent leur rétablissement. Et puis on fait face à un certain nombre aussi de défis, de difficultés et on essaiera de vous communiquer un peu concrètement qu'est-ce que... quelles sont nos pistes d'amélioration, nos pistes d'évolution. Donc je vais commencer par un topo un petit peu long, puis mon collègue ouvrira un petit peu la discussion ensuite sur des aspects plus organisationnels. Alors pour commencer, on parle des premiers épisodes de psychose. Alors, on vous en a parlé, je crois, un tout petit peu ce matin. Je vous ai dit, j'en parlerai pas trop d'un point de vue théorique, mais quand même pour qu'on soit sûr de parler de la même chose. Il s'agit de patients qui, en général, sont plutôt âgés de moins de 35 ans. C'est on va dire les limites les critères d'inclusion dans notre service. Généralement, il s'agit plutôt de patients âgés de 25-30 ans, qui, pour la première fois, vont connaître, malheureusement, des signes de psychose avec des perturbations, des perceptions, des croyances, pour plein de raisons différentes. Parfois, on va dire que ça peut être le mode d'entrée vers un trouble psychotique qui risque de durer un petit peu plus longtemps, comme les troubles schizophréniques, mais ça peut être aussi transitoire, en lien avec une substance, ça peut être lié à un choc traumatique, ça peut être plusieurs raisons, mais en tout cas, c'est une situation qui justifie qu'on se donne des moyens pour améliorer le pronostic, et il a été clairement montré qu'intervenir avec des moyens structurés, de façon rapide et organisée, ont modifié considérablement le pronostic. Donc ça, c'est quelques petits éléments d'introduction pour qu'on sache de quoi on parle. Alors, un élément important, et là je vous ai mis le manifeste d'un groupe de cliniciens qui a été ensuite rejoint par des usagers aussi. C'est une initiative internationale qui s'appelle High Fever. C'est pour une initiative internationale pour le rétablissement après un premier épisode psychotique. Et donc, ces différents acteurs ont écrit un manifeste qui s'appelle Meaningful Lives, donc des vies pleines de sens, en partant du constat que on faisait un certain nombre d'acteurs, dont des usagers, que le pronostic après un premier épisode était généralement pas très bon, en tout cas à cette époque-là, avec des difficultés à obtenir ce que tout un chacun peut vouloir dans sa vie, un travail, une vie affective, des tas de choses. Et des éléments, de constat hein, qui étaient assez péjoratifs à cette époque-là, c'est que beaucoup de ces patients, finalement, les troubles étaient déjà actifs depuis quelques années, ce qui les a parfois empêchés d'être scolarisés. Beaucoup arrivent dans les soins déjà avec un taux d'emploi inférieur à la moyenne générale, et l'expérience des soins ne les aidait pas forcément à ce niveau-là, puisque finalement le taux d'emploi se dégrade dans l'année qui suit l'entrée dans les soins. Donc, en quelque sorte, nos dispositifs sont pas, en tout cas, n'étaient pas très efficaces pour améliorer cette situation, avec voilà un risque majeur dans cette population de précarisation. Donc, ce que posait comme grand principe ces différents les acteurs de ce réseau, c'est que chaque jeune, après un premier épisode, devrait avoir le droit à l'éducation, à une formation, à un emploi, à la citoyenneté, de développer une carrière satisfaisante, d'avoir des possibilités d'études identiques à ce que leur père, qui ne connaissait pas de troubles psychotiques, pouvait avoir, avec le droit à ne pas être discriminé et à être valorisé comme tout un chacun peut l'être. Donc ça peut paraître évident, mais en tout cas, jusqu'à il y a peu, ça ne l'était pas du tout, et c'est un combat de permettre à ces jeunes d'accéder à tous ces éléments dont on peut penser qu'ils y ont droit. Voilà, ça nous amène à parler de rétablissement, hein, et je pense que c'est important d'avoir en tête ces notions-là et vous montrer comment, finalement, dans nos dispositifs de soins, on a pour objectif de promouvoir ce rétablissement. Donc, je ne sais pas si tout le monde est familier du concept, enfin, je pense que si, probablement une grande partie d'entre vous, mais je vais quand même rappeler quelques éléments. Je pense, qui de mieux que quelqu'un qui a connu des troubles psychiques pour en donner une définition, et c'est ce que propose Patricia Degan, qui a connu des troubles psychotiques, un diagnostic de schizophrénie, et puis qui ensuite a fait une formation, et aujourd'hui est une psychologue de renommée, qui conduit de nombreuses recherches. Elle décrit le rétablissement comme un processus, une manière d'aborder le quotidien, finalement, qui est une manière de pas se laisser effondrer par un certain nombre de limitations et mettre plutôt au premier plan ce qu'il est possible de faire plutôt que de se concentrer sur le déficit et ce qui devient compliqué. L'idée, c'était plus, pour Patricia Degan, d'être dans une position d'acceptation qu'il y a un certain nombre de difficultés et en même temps de s'autoriser à s'ouvrir aux possibilités. Alors, cette question de rétablissement, il y a plusieurs manières de le définir. Une autre manière que je trouve aussi assez intéressante, c'est ce que propose Andresen, c'est on parle d'un processus de convalescence psychologique, un peu comme, je sais pas, on a un accident de la voie publique, à un moment, il y a des soins un peu urgents, il faut réparer un certain nombre de choses, et puis ensuite, petit à petit, retrouver des capacités, retrouver sa vie, parfois avec quelques difficultés, quelques limitations, mais malgré tout, aller de l'avant. Donc, dans ce processus, l'idée, c'est qu'il soit guidé par une dynamique d'espoir, de reconstruction, de recherche de sens et de responsabilisation. Donc, c'est quelque chose, on va le voir, qui ne concerne pas uniquement la réduction des symptômes. Ça, c'est dans différents domaines en santé mentale, c'est quelque chose qui a été mis en avant. Par exemple, je prends dans le champ de la dépression, il y a quelques années, une étude que je trouvais assez intéressante où on interrogeait des personnes qui avaient un score clinique de dépression qui franchissait un seuil. On disait, sur un plan clinique, il n'y a plus de dépression. Et si on demandait aux personnes, est-ce que vous en avez fini avec votre dépression, la grande majorité répondait non, parce que probablement que c'est se rétablir, c'est autre chose, c'est retrouver une organisation de vie satisfaisante, et ça va bien au-delà de la simple question clinique. Alors sur cette diapositive, qui est peut-être pas très très lisible là, de loin, mais l'idée est de vous montrer que le rétablissement est un processus en plusieurs dimensions. On parle d'une dimension clinique, fonctionnelle, sociale, physique, existentielle. Donc c'est quelque chose d'assez large, et dans chaque domaine, il y a un certain nombre d'exemples ici. Pour se rétablir, effectivement, c'est avoir moins de symptômes, moins de voix, moins d'anxiété, c'est quelque chose qui peut être important. Avoir accès à un emploi, avoir retrouvé des amis, se refaire un réseau, récupérer une santé physique satisfaisante, et puis avoir l'impression d'avoir un rôle à jouer dans son environnement, et de façon même plus large. Ça fait partie d'un processus global qu'on peut appeler le rétablissement. Et je pense que on le verra après, nos case managers travaillent avec ça et ne se focalisent pas uniquement sur la question de réduire les symptômes, prendre le traitement. Enfin, c'est qu'une toute petite partie de la question. Alors, une autre manière de concevoir le rétablissement, on a vu un petit peu la question des différentes dimensions, enfin, qu'est-ce que ça peut toucher comme domaine, c'est de le voir, pour rebondir un peu sur les propos de Patricia Degan, comme un processus. Et ça aussi, c'est important à appréhender. Parfois, il y a des choses qui sont où les gens sont prêts à s'engager dans des projets, ont pu dépasser certaines choses, et puis au début c'est parfois un petit peu difficile. Et ça, c'est on appelle les différents stades de rétablissement d'Andresen, où le plus souvent, après un premier épisode où des symptômes sont francs, il peut y avoir une phase un peu de sidération, de refus, de retrait social, de désespoir. C'est un peu le choc de la pathologie. Puis progressivement, les choses se reconstruisent. Il y a la conscience que quelque chose est possible après cet épisode. Puis petit à petit, les gens s'organisent ça peut être avec du soutien, avec des aides, pour progressivement se reconstruire et aller vers là où ils le souhaitent. Voilà. Alors, d'abord, quelques notions théoriques, ensuite on a un peu plus dans la pratique du case management. Je pense à un autre concept qui est très important, dont on entend beaucoup parler, et qui va au-delà de la question des personnes, enfin d'un individu unique, mais c'est plus la place des usagers dans les organisations. Donc quand on parle d'empowerment, c'est quelque chose qui doit se concevoir à un niveau assez politique. C'est comment les personnes qui ont connu des troubles psychiques peuvent jouer dans le système, jouer un rôle dans l'évolution du système, dans sa transformation, et finalement influer sur son évolution permanente et pas subir. Alors, on va le voir déjà au niveau d'un individu, et puis de façon plus globale, comment on peut concevoir la question de la place des usagers. Au niveau de la personne, je dirais que cette notion d'empowerment, elle se conçoit bien en partant de ce qu'on appelle le continuum de la détermination, de l'autodétermination. Très souvent, ce qu'on observe dans les premières phases des troubles, justement, quand les gens peuvent être un petit peu sidérés, Voilà, enfin, ça s'attendait pas forcément à vivre quelque chose comme ça. La motivation a tendance à venir un petit peu de l'extérieur, qui va essayer mettre en avant bah, qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour que la personne aille mieux. Voilà, donc c'est, on va dire, c'est plutôt on va dire les équipes, les accompagnants qui vont avoir tendance à finalement proposer un certain nombre de choses, et puis progressivement ce qu'on essaye de travailler, c'est une appropriation d'un certain nombre de questions, notamment bah, la question de la gestion de sa maladie, de ses symptômes, pour finalement réaliser que bah, c'est ça qui me permet d'accomplir mes objectifs, de faire ce que je veux et d'aller là où je veux aller. Donc vraiment l'idée, c'est de progressivement promouvoir une autodétermination et pas être dans une logique paternaliste où voilà, enfin, on guide les gens là où il faut aller, et comme si on était les seuls à savoir ce qui était bon pour eux. Enfin, l'idée, c'est vraiment de créer cette dynamique où la personne se saisit de sa problématique et avance. Un autre niveau de réflexion sur cette question d'empowerment, c'est la question donc, de la place des usagers dans le système, et on essaye dans notre service aussi de proposer une place importante aux usagers. Ce schéma-là, c'est ce qu'on appelle le continuum de l'inclusion des patients. C'est le modèle de Montréal qui a été théorisé par Marie-Pascale Paumé à Montréal. Et l'idée, c'est que chacun à son niveau, dans différents domaines, peut avoir un impact dans le système, que ce soit dans les soins, que ce soit dans la recherche, que ce soit dans l'enseignement, les usagers peuvent être impliqués. Et il y a plusieurs niveaux d'implication. C'est vrai que le niveau minimal, bon, c'est d'informer les gens, hein, mais c'est pas du tout suffisant. Dire, ben voilà, on vous propose telle prise en charge pour telle et telle raison. Bon, bien sûr, c'est un minimum, c'est le minimum légal, mais on attend quand même autre chose. Ensuite, prendre en compte les préoccupations, être dans quelque chose de beaucoup plus bilatéral, par exemple dans le choix des traitements, être dans un processus de décision partagée. Donc là, on commence à aller un petit peu un cran au-dessus. Et puis, en avançant dans cette collaboration, on peut aller jusqu'à la question du partenariat. Hein, et c'est ce qu'on, aujourd'hui, j'espère, on commence à atteindre, c'est que quand on a des changements à faire dans notre service, eh bien, on demande aux représentants des patients qu'est-ce qu'on devrait faire, comment il faudrait structurer les choses, est-ce qu'il faut qu'on s'organise autrement parce que c'est plus pertinent comme ci ou comme ça. Donc là, vraiment, c'est un niveau d'engagement beaucoup plus fort, et qui peut se concevoir, encore une fois, je dis dans différents niveaux, là je parle de soins, mais au niveau de l'enseignement, c'est la même chose. Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux étudiants en médecine, par exemple? Ben, je pense que les patients ont quelque chose à nous dire de ce qu'il faut enseigner. Voilà, alors j'en viens maintenant au case management. De façon un petit peu plus concrète, pour vous dire un peu comment en fait on a conceptualisé le case management dans notre service. Alors on s'est beaucoup appuyé sur les référentiels internationaux en intervention précoce, hein, comme vous le savez peut-être, il y a eu un certain nombre d'initiatives pionnières en France, hein, dans le domaine, et puis on vous en a présenté notamment ce matin. Mais globalement, la France a eu un très gros retard dans la mise en place des dispositifs de case management pour les jeunes avec des premiers épisodes. Donc on s'est beaucoup basé sur ce qui s'est construit à l'international. Et voilà, ça nous a permis de construire notre dispositif et de soutenir les case managers dans leur mission, dans leur rôle, parce que c'est pas forcément le rôle habituel de soignant en psychiatrie. Il faut avoir en tête que nos case managers sont en grande partie, on va dire pour plus de trois quarts d'entre eux, des infirmiers, et on a aussi quelques éducateurs, donc ils sont partie de leur mission infirmière, qui progressivement ont évolué, se sont transformées en d'autres missions. Donc les missions principales, ça va être d'évaluer les besoins du patient, et c'est vrai que quand on parle de ça, on ne parle pas que des besoins cliniques, hein, mais des besoins aussi divers, enfin dans la vie sociale, dans différents domaines, de mettre en place un plan de soins et un plan de suivi qui répond à ces besoins. D'organiser l'accès, parce que finalement, pour pouvoir mettre en œuvre le plan de soins, ben, y a plein de partenariats, on n'est pas là pour tout faire, mais on a besoin beaucoup de collaborateurs, donc il faut faciliter les choses aux patients, et puis ensuite d'évaluer, de montrer que ça fonctionne, puis si ça ne fonctionne pas, proposer des alternatives. Donc, il y a plusieurs manières de travailler cette question de case management. On a, bon, ça, je pense que vous avez sans doute eu beaucoup de choses ce matin là-dessus, donc je ne vais pas trop tergiverser, mais c'est vrai que on s'était beaucoup posé la question de comment nous organiser pour répondre aux besoins des usagers. Et on entendait des initiatives avec un case manager pour parfois 20, 30 patients ou plus. On ne savait pas exactement comment on devait organiser les choses. Et puis, en prenant à tâche auprès de différents collègues dans différents endroits, on a fait le choix d'avoir un nombre de patients relativement limité par case manager, pour qu'ils puissent avoir la possibilité de les rencontrer très régulièrement, plusieurs fois par semaine, éventuellement de se déplacer au domicile, quand c'est compliqué pour les personnes de se rendre sur le site. Et voilà, c'est ce qui nous a fait construire une équipe avec un nombre de case managers qui, pour un territoire, vous le verrez juste après, qui, au final, et qu'on a un nombre d'usagers qui est aux alentours de 200. Donc on a une équipe aujourd'hui de 15 case managers donc on s'est basé sur un modèle où pour pouvoir être suffisamment intensif, on a 16 patients par case manager. Donc qu'est-ce qu'on fait? L'idée, c'est dès que la personne a un premier diagnostic de troubles psychotiques, dans les premières phases, c'est de créer un contact rapide avec le case manager. Il faut se dire que c'est la personne qui va, pendant plusieurs mois, voire quelques années, parce que notre dispositif accompagne les jeunes pendant les trois premières années des troubles, donc c'est la personne qui va jouer un rôle clé dans un certain nombre d'étapes. Donc se connaître rapidement, c'est quelque chose d'important. Et puis, l'authenticité du premier contact est aussi quelque chose qui nous semble extrêmement important. Je vais avancer parce que je vois que je prends pas mal de temps. Donc, l'idée, c'est, dès le départ, d'être en position centrale, de s'enquérir des préoccupations du jeune, de le soutenir dans les différentes étapes du soin et les différentes étapes de la vie, de participer aux différentes décisions de soins, qu'on soit en intra-hospitalier, qu'on soit en extra-hospitalier, peu importe, le case manager est là où est le jeune. Je vais passer là-dessus. Un des éléments clés du dispositif, c'est que on a besoin d'avoir une attitude très horizontale, très proche du jeune, et ça, on le favorise par différentes modalités. Alors, il y a des choses très, très concrètes. Hein, c'est, voilà, nos locaux sont en ville, sont faciles d'accès, on échange par mail, on envoie des SMS, on se déplace facilement. Les besoins changent beaucoup. Parfois, les patients ne sont pas au bon rendez-vous, mais ce n'est pas grave, on s'adapte en permanence. On maintient en permanence un optimisme réaliste. Hein, il ne s'agit pas de nier les difficultés, mais de valoriser les capacités et puis d'être dans une position en permanence bienveillante vis-à-vis du patient. L'idée est aussi de bien connaître son environnement, ses proches, de s'intégrer finalement au réseau du patient. Un des éléments clés de l'attitude du case manager, parce qu'on voit là quelqu'un qui est extrêmement proche, hein, donc il y a aussi le danger de finalement prendre un peu la place de tout, c'est pas ça. L'idée, c'est plutôt de l'aider à ce que tout soit fait. Pas faire à la place, hein, mais je parlais de ce continuum de l'autodétermination, mais c'est progressivement donner les clés pour que les choses soient faites et que la personne soit en mesure de mettre en œuvre les choses. Donc, ça fonctionne en plusieurs phases. C'est vrai qu'au début, dans la prise de contact, l'idée, c'est d'évaluer la situation, d'informer sur la pathologie, d'informer la famille, d'aider à gagner en compétences pour mieux gérer sa pathologie, favoriser l'engagement dans les soins, tout mettre en œuvre pour minimiser les conséquences sociales des troubles, et puis donc favoriser l'adaptation de la personne à ce qu'il vit, à cet épisode. Et progressivement, les choses, dans la plupart des cas, s'apaisent, rentrent un peu dans l'ordre, mais il existe parfois, à ce moment-là, des difficultés résiduelles, il y a besoin de soins ou de dispositifs complémentaires. Et donc là, l'idée, c'est de proposer un plan sur mesure pour répondre à des besoins qui sont individualisés. Et puis ensuite, je vous dis, on a un dispositif de 3 ans. L'idée, c'est de progressivement permettre la sortie du dispositif, avec un dispositif de soins à la sortie qui est, on l'espère, le plus léger possible. Donc de façon plus concrète, qu'est-ce qu'on fait? Quels besoins on couvre? Le dispositif PEPS, d'intervention précoce pour les psychoses, va couvrir les besoins des patients qui connaissent un premier épisode sur le territoire du Vinatier. On reste un dispositif sectorisé. Les établissements de Saint-Jean-de-Dieu, de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or amorcent également des initiatives du même ordre. Donc on couvre les besoins d'approximativement 50% de la population du département du Rhône. Donc avec des équipes territoriales, vous savez peut-être, mais l'hôpital du Vinatier, dans son organisation de secteur, fonctionne avec 3 grands pôles de psychiatrie adulte qui se répartissent le territoire couvert par le Vinatier. Donc on a choisi de créer une grande équipe, mais avec des sous-équipes qui va couvrir des territoires. Par exemple, on a une équipe qui va être beaucoup plus dédiée à l'est de Lyon, une équipe qui va intervenir plus à l'ouest et une autre plus au centre, mais avec le même référentiel de soins. Donc ils vont proposer du case management continu, des soins de psychoéducation sous forme groupale, de l'intervention auprès des familles, des interventions unifamiliales avec la contribution de l'UNAFAM. Là, c'est rencontre au début sous forme de 3 séances, une seule famille. Et puis, on a aussi un groupe pour les proches de personnes qui ont eu un premier épisode. Un groupe d'entraînement aux habiletés sociales aussi. donc des groupes assez courts. Bon, pour des patients qui ont des symptômes d'apparition récente, on intervient sur indication de nos collaborateurs de la psychiatrie générale. Donc, on a aussi œuvré à des évaluations plus rapides pour qu'on puisse accéder rapidement à notre dispositif. Et donc, selon plusieurs phases, celles que je vous ai citées avant, pendant une durée de 3 ans. Donc, je vous le disais, les premières phases, c'est évaluer, aider à naviguer dans le dispositif de soins, que ce soit en ambulatoire ou en intra-hospitalier. Donc là, c'est souvent une phase très intensive, très en mobilité, et où la question de l'engagement dans les soins est vraiment un des éléments les plus importants. Puis progressivement, on fait un peu un état des lieux avec le jeune, où il en est, quels sont ses besoins, quelles sont ses difficultés, et on propose un plan de rétablissement individualisé là, avec différentes propositions possibles. Ça peut être du soutien à l'emploi, des psychothérapies individuelles, de la remédiation cognitive. Enfin, c'est très adaptatif et en fonction du bilan, des souhaits et des besoins. Et dans la dernière année, on organise progressivement le transfert vers un dispositif cible qui sera là aussi choisi en fonction des besoins du jeune. C'est un dispositif qui nécessite beaucoup d'articulation à toutes les phases. Tout d'abord, à l'entrée, alors ce schéma est peut-être un petit peu complexe, mais comme je vous disais, on intervient sur indication de la psychiatrie générale. Les patients peuvent, et les choses ont quand même beaucoup bougé sur notre établissement, avoir accès à des rendez-vous relativement rapides. Je sais que ce n'est pas tout à fait le cas partout, mais de plus en plus, il y a des plages d'évaluation qui sont proposées dans les 15 jours. Parfois, c'est via la plateforme de soins, la plateforme téléphonique Live qui va être contactée parce qu'un jeune est en difficulté. Là, il va organiser un rendez-vous d'évaluation. Parfois, malheureusement, ça passe par les urgences parce que la situation est difficilement contenable autrement. Et puis ensuite, dès que la situation en fait est caractérisée, notre équipe va être contactée et on va intervenir rapidement et initier le parcours de soins que je vous ai décrit. Dans la deuxième phase, on se coordonne avec le service universitaire de réhabilitation qui existe depuis maintenant plus de 10 ans à Lyon et qui propose différentes interventions de remédiation cognitive, de psychothérapie, de soutien à l'emploi, aux études. Et donc, c'est à travers ce dispositif, dont je suis également le médecin responsable, qu'on organise les plans de réhabilitation individualisée. Voilà. On a un certain nombre de... Alors, je pense qu'il y a un certain nombre d'autres entre vous qui vont organiser leur dispositif en case management. Donc, on a beaucoup de coordination. Chacune des équipes des territoires se voit de façon hebdomadaire pour discuter des différents patients qui sont suivis, pour adapter les plans de soins de façon permanente. Et donc ça, c'est une coordination qui est médicalisée. C'est quand même un assez gros dispositif. On a 15 case managers qui sont répartis sur 3 territoires. L'idée, c'est pas que chacun fasse quelque chose de très différent. Donc, c'était important qu'on s'harmonise. Donc, il y a des réunions mensuelles où on discute de situations cliniques, on homogénéise nos pratiques. On a également été promoteur dans la mise en place d'une communauté de pratique, premier épisode, qui maintenant s'est ouverte à Saint-Jean-Dieu, à Saint-Cyr-au-Mont-d'Or. On a aussi quelques collègues un peu de l'extérieur qui nous rejoignent. Et l'idée, c'est d'échanger sur notre façon de travailler, de transférer un peu les connaissances dans cette logique de partage et d'échange. Voilà, on a aussi des synthèses avec nos différents partenaires à l'issue du suivi de 3 ans. Bon, ça c'est un petit peu notre tambouille interne. On utilise des tableaux de suivi, on essaye de bien s'organiser, de faire en sorte qu'aucun patient aussi ne soit oublié dans les réunions de coordination, hein, parce qu'on a toujours tendance à parler des situations qui sont les plus bruyantes, alors que voilà, enfin chacun a besoin qu'on se préoccupe de lui. Donc il y a toute une démarche des case managers en amont des temps de coordination pour identifier de qui il faudra qu'on traite à la prochaine réunion, pourquoi, quels sont les objectifs. On essaie de faire un suivi assez méthodique de tout ça. Donc ça, c'est un exemple de nos réunions mensuelles où on échange sur différents sujets. Et l'idée, c'est d'être en permanence dans l'échange autour des nouvelles connaissances. Et puis voilà, je pense que ça fait maintenant un an, on va dire. Le dispositif a commencé sur l'Est lyonnais en 2019, mais il est sous sa forme actuelle que depuis un peu plus d'un an. Donc on a connu aussi un certain nombre d'expérimentations, parfois de difficultés, donc on a des choses à faire évoluer. Donc, je vais laisser Benjamin conclure là-dessus.
Et du coup, nous rencontrons certaines difficultés qu'il faut bien prendre en compte au moment où on pense le dispositif. Et du côté, en tout cas, paramédical, et moi du côté cadre de santé, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. On rencontre une difficulté en ce moment, par exemple, sur la gestion du caseload, parce qu'on a des case managers, normalement, qui sont à 16 patients, comme vient de dire Dr Asbart. Sur certains territoires, sur un des territoires, les professionnels ont globalement entre 22 et 25 jeunes à l'heure actuelle, ce qui fait que, comme ce qui était dit avant, eh ben, ils sont moins disponibles, ils se déplacent moins. Alors, ils suivent toujours leurs jeunes, mais on est bien plus obligé de prioriser l'urgence pour pouvoir répondre au plus pressé à certains moments, et ça enlève de la disponibilité aux case managers. Donc vraiment, quand on veut faire du case management comme nous, on le souhaite, c'est faire attention à l'évaluation et au maintien de ce caseload, parce que c'est cela qui va permettre à chaque professionnel d'être vraiment disponible et de se mettre en lien aussi avec la cité, avec les différents acteurs, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement quand on a un moment donné où on est entre deux phases, où on a encore... les premiers patients que l'on a pris en charge, donc qui ont plus de 3 ans et qui ne sont pas encore sortis du dispositif, et le flux qui continue d'arriver des nouveaux patients. C'est notre situation actuelle. On a du coup aussi un devoir de disponibilité constant et qui est parfois en conflit avec l'organisation d'une équipe. Quand on est sur une prise en charge individuelle, mais qu'on doit également... faire attention à nos temps de réunion communs, aux temps de formation qui sont nécessaires pour chaque professionnel. C'est aussi compliqué parfois de se rendre totalement disponible, et on est toujours en train de revoir l'organisation avec les professionnels individuellement en fonction des urgences qu'ils ont pour leurs jeunes par rapport aux disponibilités qu'ils ont envie aussi de donner pour l'institution ou pour se former. Qui n'est pas toujours simple. On a aussi une autre difficulté qui est, on a une prise en charge ambulatoire, donc on n'a pas une présence médicale continue sur l'unité. Nos médecins sont détachés des CMP, mais ils ne sont pas à temps complet. Donc la difficulté, c'est aussi de bien penser le système en cas d'urgence et sans la présence de médecins, comment on réagit, qui on interpelle. C'est toutes des difficultés auxquelles on a pu être confronté et qu'il faut vraiment anticiper dans chaque structure pour pouvoir répondre aux besoins de la manière la plus efficiente possible. On a une difficulté plus relative, mais qui est la présence des case managers pour les équipages. Donc quand on a un patient qui ne va pas bien, est-ce que le case manager va sur cet équipage-là et va chercher l'usager qui a besoin d'être hospitalisé ou qui a besoin d'être pris en urgence ou qui a besoin d'être simplement vu en urgence? Est-ce qu'il y va au risque de mettre en péril le lien qu'il y a avec le jeune?
Peut-être parce que certains ne sont peut-être pas familiers, de la question. C'est vrai qu'on a un certain nombre de jeunes qui, à des moments, vont être dans des situations de soins sous contrainte. Et c'est vrai que qui porte la contrainte est quelque chose de parfois un peu compliqué quand on est dans un relationnel assez fort. Se trouver dans une situation à contraindre les soins est quelque chose de parfois un peu délicat, voire contre-productif. Donc voilà, on a un certain nombre de questionnements et de difficultés à ce niveau-là.
Et on a un point aussi qui est soulevé en ce moment et auquel on s'est attelé avec ma collègue IPA, enfin notre collègue IPA, infirmière en pratique avancée, c'est les évaluations psychométriques, leur suivi et leur analyse qui doit être aussi pris en compte par les case managers dans l'idée d'évaluer le système, bien sûr, mais d'évaluer surtout comment vont les jeunes, comment... ils évoluent au fur et à mesure de leur prise en charge, qui est de 3 ans chez nous, voilà, pour leur suivi clinique.
Oui, parce que par rapport à ces questions-là, hein, c'est vrai que on s'est aussi basé sur des organisations où les soignants étaient très impliqués dans l'évaluation, l'évaluation structurée avec des outils, ce qui n'est pas forcément toujours la culture de nos organisations de soins. Donc il y a tout un enjeu de transformation et puis d'utiliser ces outils, pas juste parce qu'il faut remplir des choses, mais parce que ça permet de mieux comprendre ce qui se passe au niveau des patients, puis aussi leur faire un retour de ce qui a évolué. Et donc voilà, enfin, c'est tout un enjeu d'intégration de nouvelles pratiques qu'on a à faire face. Voilà un peu ce qu'on voulait vous présenter. On vous remercie pour votre attention.
Merci à vous.